Capitalisme, sortir de l'impasse. Dans le cadre du 42e Altermardi Parlons Solutions, le groupe SOS et Ashoka recevaient en particulier Eve Ciapello, professeure de management durable à HEC, la prestigieuse école de commerce, et chercheur il y a 12 ans. Eve Ciapello et le sociologue Luc Boltanski s'interrogeaient sur l'absence de critiques, y compris constructives, au sein de la société française. 12 ans après sa parution, le nouvel esprit du capitalisme a été traduit en anglais, italien, espagnol et aujourd'hui en russe et publié à nouveau en France en collection de poche. L'analyse d'Eve Ciapello au micro de Pascal Marcaggi.
Au milieu des années 90, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de désespoir, ce qu'on a qualifié ensuite dans le livre comme étant la crise de la critique. C'est-à-dire que les gens avaient le sentiment qu'on pouvait rien faire, une sorte de fatalisme énorme, une sorte de sinistrose. Alors on dit toujours que les Français sont sinistrosés, mais je pense que ça a bien évolué. Depuis le début des années 2000, on a vu quand même fleurir des événements qui proposaient des solutions partielles, minuscules, et des débats qui renaissaient. Donc on a quand même assisté, je pense, dans ces 10 années, à un renouveau de la critique, un renouveau de l'expérimentation. Le problème n'est plus tellement maintenant le fait qu'il n'y a pas de critique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une critique, mais qu'elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez forte. Et puis, elle est comme toujours, elle se débat dans des querelles internes aussi, puisqu'il y a toujours différentes personnes qui veulent différentes choses. Mais donc, la critique est de retour, les alternatives sont de retour, mais sans doute pas encore assez fortes, puissantes.
L'initiative de votre livre, c'était ça, c'était que les critiques avaient l'encéphalogramme plat.
En fait, on cherchait à comprendre ce phénomène.
C'est avec Luc Boltanski.
Avec Luc Boltanski, on a cherché à comprendre pourquoi c'était dans cet état et pourquoi la critique avait disparu. Donc on a à l'époque fait un modèle d'analyse qui expliquait qu'il y avait donc deux critiques, il n'y en avait pas qu'une seule, il y avait la critique artiste et la critique sociale, que la critique sociale, qui était très puissante, avait été déstabilisée par une transformation morphologique des pratiques du capitalisme, transformation morphologique qui avait elle-même été alimentée par des idées qui venaient d'un autre bord de la critique. Donc il y avait une sorte de jeu un peu compliqué, où il y avait eu une vraie transformation avec des vraies améliorations de la vie en régime capitaliste, on va dire ça comme ça, mais que ces améliorations avaient été données d'un côté et par ailleurs, on reprenait d'autres choses de l'autre, notamment pour tout ce qui était la précarisation du travail. Voilà. Donc, on a essayé d'analyser ce jeu en disant sur les deux critiques qui étaient donc très présentes dans les années 70, qui étaient toutes les deux dans la rue, puisqu'on avait les étudiants d'un côté, les ouvriers de l'autre. Finalement, l'une et l'autre se sont trouvées neutralisées à un moment donné par la transformation du capitalisme. À l'une, on a donné pour partie satisfaction, et donc elle s'est un peu tue. Et l'autre a été totalement déstabilisée et perdue, en fait. L'idée, c'était de comprendre ceci pour expliquer que c'était pas lié au fait qu'on ne pouvait rien changer, c'était lié au fait que la critique, elle est inscrite dans des processus sociaux, elle est portée par des acteurs et que, voilà, à certains moments, les choses se défont. C'est pas parce qu'on ne peut plus changer, c'est parce que les conditions d'expression doivent être reconstruites.
Vous prenez comme exemple les années 30. Bon, la conclusion n'a quand même pas été très heureuse. Non. Les années 70, à l'échelle de la planète, ça n'a pas été très, très heureux non plus.
Oui, c'est-à-dire dans tous les moments de crise et de montée des initiatives et des alternatives, il y a toutes sortes d'alternatives qui sont mises en débat. C'est clair que dans les années 30, il y a eu une troisième voie, puisque une partie des problèmes des réformateurs des années 30, c'était de chercher la troisième voie. C'était donc ni l'ultralibéralisme qui les avait mis dans la situation dans laquelle ils étaient, ni de l'économie planifiée à la manière de l'Union soviétique. Donc dans le monde des chercheurs de troisième voie, il y avait tout, y compris des fascistes, des nazis, voilà. Et c'est vrai que dans un premier temps, ce sont ces alternatives-là qui ont gagné politiquement. Et il a fallu donc quelques millions de morts, une guerre mondiale pour en venir à bout. Donc effectivement, mais à l'issue de ce désastre-là, on a eu un moment, si j'ose dire, où une autre troisième voie a été proposée, qui était celle du capitalisme dirigé ou du capitalisme planifié, qui a pu s'installer. Voilà, c'est cette troisième voie-là qui a été en fait démontée par le néolibéralisme. Mais si vous voulez, c'est très intéressant ces histoires de... Enfin, c'est très intéressant quand on n'est pas celui qui est zigouillé au passage. Regardez ça, parce qu'au moment où se mettait en place cette alternative, il y avait une autre critique qui se mettait en place, pas du tout audible à l'époque, qui était la reconstruction du libéralisme sur des bases partie philosophiquement renouvelée, qui vont faire une traversée du désert pendant 30 ans et prendre appui sur la crise des années 70 pour prendre le pouvoir en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc ce que ça veut dire, je suis d'accord avec vous, que les issues ne sont pas toujours très bonnes. Il y a des fois, il se passe des bonnes choses, d'autres fois, c'est qu'il y a une puissance, en fait, de la...
Disons que si on pouvait se faire l'économie de rééditer, entre guillemets, l'exploit, ce serait aussi bien. Est-ce qu'on en a les outils ?
Non, ce qu'il y a de toute façon, c'est que le changement social, il s'appuie toujours sur des idées critiques.
Pour vous, la critique est quelque chose d'efficace ?
La critique est toujours efficace. Le problème, c'est quelle est la critique que l'on porte et quelle est celle qui va gagner. Donc, quelle est celle qui va être jugée la plus propre ou la plus présentable par néanmoins les dominants, hein, puisque en fait, in fine, on peut faire des pressions par en bas. Le jeu échappe en partie. Donc, tout le problème, c'est qu'elle va être celle qui va être saisie et va être considérée comme la moins désagréable.
De la critique constructive, la critique ne peut jamais venir du haut.
Ah non, elle vient du haut. Elle vient des deux. C'est-à-dire, elle a besoin de rapports de force, donc elle a besoin du bas, mais elle ne marche pas si elle n'est pas relayée en haut, si j'ose dire. Donc il faut des porteurs, en fait, de cette critique également dans les élites. Mais moi, ce que je crois, c'est le dernier paragraphe du grand ouvrage de Keynes. Lui, qui est un économiste, il finit en disant « ce sont les idées qui font le monde ». Alors bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui fait des idées, mais je crois profondément qu'on ne peut pas changer le monde si on n'en a pas un diagnostic, si on n'en a pas... ce n'est pas suffisant, mais c'est très important. Donc c'est très important d'avoir une critique. Et effectivement, il faut savoir trier dans les critiques et les solutions qui sont proposées. Et puis, agir également pour que certaines... plus agréables, disons, gagnent plutôt que d'autres. Et là, c'est vrai que le jeu, malheureusement, surtout dans les périodes de crise, est assez ouvert.
C'est un système ou c'est une façon de faire qui a dérivé, parce que le capitalisme, c'est quand même pas mauvais. Le fait d'entreprendre, c'est plutôt une chose positive.
Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que on est dans un système économique qui a un certain nombre de règles, un certain nombre sont bonnes et un certain nombre d'autres sont problématiques, comme par exemple le fait que ce soit le capital qui... le capital ou les actionnaires qui est systématiquement le pouvoir. On est sur des formes juridiques qui sont de cette sorte-là. Avec les théories néolibérales, on nous dit même que c'est normal que l'actionnaire ait le pouvoir. L'actionnaire, dans le meilleur des cas, il est un apporteur de capital. Il y a aussi des apporteurs d'autres choses. Donc il y a tout un travail en partie de déconstruction de certains aspects politiques en fait, du capitalisme.
Des dogmes à détricoter, entre guillemets.
Il y a des dogmes à détricoter et c'est bien là qu'on a besoin de tout le monde pour détricoter ces dogmes, il faut aussi les attaquer au niveau dogmatique, hein, pour montrer comment ils sont construits et les présupposés sur lesquels ils reposent, etc. Donc si vous voulez, le capitalisme, c'est malheureusement pas que l'entreprendre, hein. C'est aussi un certain nombre de règles de partage de la valeur ajoutée, un certain nombre de mécanismes d'attribution du pouvoir et d'attribution de la décision. Donc on ne peut pas résumer, ça serait trop simple, si vous voulez, de le résumer comme ça.
Est-ce qu'on pourrait modéliser la décence, modéliser le bien-être ?
Ce qui est un peu compliqué, c'est que ça renvoie à un débat autour de est-ce qu'on pourrait mesurer, avoir des indicateurs, transformer en instrument de gestion un certain nombre de choses. Bon là, le débat est compliqué parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, avec un monde de production de masse, avec beaucoup de gestion à distance, quelque chose qui n'est pas mesuré n'existe pas. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas transformé en information, n'existe pas. Et en même temps, on voit bien que essayer de transformer ça en indicateur chiffré, c'est en quelque sorte faire violence à la chose que l'on cherche, c'est-à-dire la qualité de vie. Alors est-ce qu'on peut faire l'indicateur de qualité de vie ? Est-ce que le fait, quand on l'aura résumé à trois chiffres, sur lesquels on aura fait une moyenne, on perd la richesse ? Mais aujourd'hui, je crois qu'on est un peu obligé de passer par là, parce qu'on est sur des machines... bureaucratiques qui fonctionnent comme ça. Donc il faut leur donner, il faut mettre les grains de sable qu'elles comprennent. Enfin, c'est l'une des pistes.
En fait, de grains de sable, il y a aussi savoir est-ce qu'on transforme le système de l'intérieur ou bien de l'extérieur.
On le transforme toujours à un moment donné de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a besoin des idées de l'extérieur, on a besoin du stimulus et des rêves, des propositions marginales. Mais le système, en fait, on le transforme de l'intérieur. vous savez, c'est quand même... Bon, je crois que là, on est, c'est le débat qu'on a là, c'est un peu le débat réforme et révolution, donc sur lesquels on a un peu avancé, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il ne suffisait pas de prendre le pouvoir et de changer la tête pour changer le monde, parce qu'en fait, derrière, ben, il vous faut des gens pour faire fonctionner les choses. Ces gens ont été élevés, éduqués, ont pris des pratiques professionnelles, des réflexes d'un autre système. Et donc, il ne suffit pas de changer la tête pour changer le système. Donc ça, c'est l'histoire classique où on porte au pouvoir quelqu'un qui est plein d'espoir. Et cette personne, ben, elle est face à un énorme système qu'il va pas pouvoir, il ou elle ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain. On ne va pas décapiter la moitié du pays pour le faire fonctionner. Les Khmer ont essayé de décapiter, ils ont zigouillé toutes les élites.
On va tâcher de trouver une autre référence que les Khmer quand même.
Oui, mais c'est des gens qui... Enfin, soit vous travaillez avec les gens qui sont là, soit vous dites ben, c'est tous des pourris, auquel cas c'est une impasse. Donc de toute façon, on change toujours le système avec les gens qui sont en place. Il faut faire avec ce qu'on a, si j'ose dire, et petit à petit faire des transformations qui sont forcément lentes. Voilà.
C'est allé assez vite, la prise de conscience que le commerce n'était pas forcément équitable. Toutes ces idées-là, il y a 10 ans, elles n'étaient quand même pas tellement...
Non, il y a 10 ans, mais elles ont 40 ans. Elles ont 40 ans, et voilà. Le début commerce équitable, c'est les années 70, c'est la nébuleuse d'avant, hein, comme le début du mouvement écologique. On sait des gens qui ont fait des choses et qui ont fait une traversée du désert. Voilà, donc ça met du temps et de toute façon, on voit bien qu'ils passent leur temps à se démener.
Ils sont militants.
Voilà, et que le pouvoir de transformation sociale n'est pas encore, on n'est pas à avoir tous les produits qui sont équitables. Hein.
Tout ce qui est justement, entre guillemets, alternatif, est-ce que c'est voué à le rester? Est-ce qu'il y a un côté mythe décisif?
Eh bien, les deux.
Vous allez nous sabrer le moral définitivement.
Non, pas du tout. Je pense que, comment dire, je pense que l'alternative, c'est aussi un état d'esprit. Et que quand on est militant, on le reste toute sa vie. Enfin, disons qu'on va avoir des moments de sommeil, des moments de vie où on va faire un peu autre chose. Mais je pense que militantisme, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que... Il y a des causes, on s'investit, on peut réussir, mais il y en a toujours d'autres qui surgissent. Donc voilà, le problème, c'est plutôt comment diffuser l'idée qu'on peut changer les choses, on peut faire des choses. On est dans un monde social qui nous élève à nous expliquer qu'on ne peut rien changer, qu'on a juste le droit de consommer, qu'on a juste le droit d'essayer de gagner sa vie et que ça ne sert à rien de bouger, ça ne sert à rien d'essayer de faire un petit quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est Sisyphe, oui, parce qu'il y a toujours des tas de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas. Certaines fois, la pierre ne retombe pas, mais c'est une autre qu'il faut remonter.
Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants d'HEC ?
Je leur dis que de toute façon, ils choisiront l'endroit où ils agiront. En revanche, quand ils agiront, puisqu'ils se destinent avant tout à agir et pas à être comme moi, des gens qui écrivent et qui agissent peu, sauf en éducation, quand ils verront les problèmes sur lesquels ils travaillent, ils vont trouver les marges de manœuvre. Et ensuite, ce que j'essaye de faire, donc ça, on essaye de leur apprendre en leur faisant faire des projets assez concrets, où ils voient que dans les détails, il y a des choses qu'on peut bouger sous réserve qu'on veuille bien le faire. Et donc dans les détails, il y a des marges de manœuvre. Et deuxièmement, on essaye d'élever leur niveau de diagnostic critique pour renforcer leur capacité, leur exigence, on va dire, et leur distance critique sur ce qu'ils font. Voilà.
Parmi les actions que vous voyez passer, est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous plaît plus qu'une autre?
Je crois que ce qu'on a... Enfin,
en gros, est-ce que vous préférez, vous le connaissez et tout le monde le connaît à Radio Éthique, est-ce que vous préférez Tristan Lecomte ou bien quelqu'un d'autre? Il y en a bien une qui vous plaît?
Ce que j'aime, c'est que ça prolifère. Donc, ce que je n'aime pas, c'est l'esprit de clocher et c'est la disqualification de l'adversaire. Je trouve que c'est bien de se faire critiquer. Ce que je n'aime pas, c'est des gens qui arrivent, qui ont la solution à tout et qui veulent l'imposer à tout le monde. En revanche, ce que je souhaite, c'est que ça prolifère. Donc, ce qui m'embêterait, c'est qu'il n'y ait que Tristan Lecomte, qu'il y ait d'autres pratiques du commerce équitable. C'est très bien et qu'il n'y ait pas forcément de volonté hégémonique.